l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui, Éric Danon, ambassadeur de France en Israël jusqu'en 2023. Ancien élève de l'ENA, promotion 1986, Éric Danon a été à son dernier poste directeur général adjoint aux affaires politiques et de sécurité. Il nous a reçus à l'ambassade de France de Tel Aviv dans le cadre du voyage d'études initié par le FSJU sur le thème de l'innovation écologique pour les 30 ans du jumelage de Strasbourg et Ramat Gan. Une délégation composée de la maire de Strasbourg et trois de ses adjoints, trois membres de la collectivité européenne d'Alsace, des membres de l'ABRAPA et de l'ORT. Commençons par écouter le discours inaugural d'Éric Danon, suivi d'une interview.
Non, ce qui est bien dans ce jumelage, c'est qu'il peut se développer sur des vrais enjeux. C'est toujours, j'étais responsable de ça à la coopération à un moment. Il y a des jumelages creux, si l'on peut dire, et il y a des jumelages pleins. Et malheureusement, avec la France, souvent, les jumelages tiennent sur l'énergie d'une ou deux personnes. Ils sont généralement à l'origine de ça, parce qu'ils connaissent l'autre ville, l'autre pays, etc. Donc ça démarre. Et puis au bout d'un moment, ça tombe, parce que tout est dans l'énergie, dans l'élan initial, mais surtout dans l'énergie qu'on met après, comme tout projet d'ailleurs, mais surtout cela. Où naturellement, le système peut se dire, ben, il suffit d'attendre, quoi, et puis ça va retomber. Mais quand on est sur des vrais enjeux de société et comme évidemment les questions environnementales et puis le healthcare bien sûr et je dirais aussi ce qui fait la cohabitation dans la ville avec des communautés différentes, ce pays est quand même spécialiste de ça avec ses qualités et bien sûr aussi ses défauts, il y a de quoi remplir. Mais avec une vraie valeur ajoutée pour les deux côtés. Il faut trouver les gens qui sont prêts à faire les allers-retours, les boîtes qui sont prêtes à vraiment travailler ensemble. Ce n'est pas évident. Mais quand même, je suis sûr que vous pouvez trouver à Ramat Gan tous les relais qui vont bien. Au-delà du maire, d'abord, il y a beaucoup de Français. Je ne dis pas que c'est une ville française, mais enfin bon, on n'est pas loin par endroit. Enfin, moi, je parle en français dans Ramat Gan, on me répond instantanément en français. Ah oui, ça et Netanya, je dois dire, ce sont les deux villes où on peut parler français. Il y a toujours quelqu'un qui parle français en face de vous. Et donc, on peut trouver assez facilement des interlocuteurs. On peut trouver des interlocuteurs qui sont intéressés par ces questions. Et de façon générale, la préoccupation ici en matière de Smart City... devient forte et réelle. Et donc, la question des économies d'énergie, de la question de la fluidification du trafic, parce qu'ici, le cauchemar, c'est les embouteillages. Donc, c'est 1,5 de PIB perdu chaque année. Il faut voir ce que c'est. Quoi. C'est des millions et des millions d'heures de travail perdues dans sa voiture, dans les embouteillages. Donc, ils ont vraiment envie de faire un effort. Et ils ont un gros travail avec les startups sur les feux rouges, la coordination des feux, les temps moyens de trajet, etc. Et l'allumage des réverbères de l'éclairage public la nuit. Enfin, tout ça est travaillé. Et je pense que là, il y a beaucoup d'échanges possibles. Alors, pas forcément avec Ramat Gan, mais en tout cas avec Israël de façon plus large, avec Ramat Gan comme un des points d'entrée dans le système, parce que c'est une ville qui est dynamique et intéressante. Et un mot quand même sur la question de la cohabitation des communautés entre elles. C'est depuis toujours un problème essentiel pour Israël, bien entendu. Et comme partout, ça a ses qualités et ses défauts. Mais il y a quand même des qualités et une réflexion autour de la question de l'islam dans la ville qui sont menées ici et qui, je crois, peuvent être d'un grand intérêt en termes d'échange. C'est une question qui, ici, est quelque part moins sensible qu'en France. C'est ça qui est paradoxal. Et notamment autour de la question des femmes, j'ai toujours dit au ministre, qui m'a toujours regardé avec des yeux ronds, quitte à être une femme voilée, il vaut mieux habiter la banlieue de Tel Aviv que la banlieue parisienne. on vit mieux. Et il y a là quelque chose, il y a un apprentissage qui est important et intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crispation sur les signes extérieurs. Il y a une crispation fondamentale sur l'identité et la question de savoir comment on fait un pays juif et démocratique avec une démographie qui est contraire et qui peut poser un problème en cas d'un seul État. Mais c'est une question qui est de nature politique, qui n'a rien à voir avec du rejet à la française. Alors disant cela, le rejet, il vient beaucoup de la communauté française ici. C'est-à-dire que dans toutes les circonscriptions, hein, au niveau des élections présidentielles, la 8e circonscription des Français de l'étranger, c'est-à-dire Israël plus territoire plus Italie, Grèce, Turquie, Chypre, Malte, Vatican, San Marin, c'est quand même un vote qui était compliqué par rapport au vote en France. Et sur Israël seul, c'est le pays, la sous-circonscription, où Zemmour a fait le plus de voix. C'est-à-dire de toute la France, métropole et étranger. Zemmour a fait 53% en Israël au premier tour. Et donc, on voit bien qu'il y a une, certes sur un nombre relativement faible de votants, parce qu'on a ici des taux d'abstention de 90%. Donc, mais il n'empêche que, symboliquement, c'était évidemment très, très important. Donc, il y a une manière de vivre les choses ici, mais surtout de penser la France depuis ici, parce que beaucoup l'ont fait en disant « ce que je n'aime pas, c'est ce que devient la France ». Donc en fait, ils votaient non pas pour eux, mais pour la représentation qu'ils se font de ce qui se passe en France. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui sont très mélangées ici, très compliquées au niveau de la communauté française, et qui est à 80% une communauté binationale. Mais ça vaut la peine de travailler politiquement ce terrain-là, parce que ça nous apprend beaucoup en termes de perception et de réalité politique. Et donc, les échanges, je crois, avec la communauté française et francophone sont importants. Ceci juste comme point à rajouter à tous les éléments cités sur développement, etc.
Son Excellence, vous avez une grosse communauté francophone ici en Israël, très particulièrement ici à Ramat Gan et à Tel Aviv. Quelle est la cohésion entre cette population francophone et ces Français qui vivent en Israël ?
Il y a ici une importante communauté, en tout de l'ordre de 180 000 Français. 80% sont des binationaux et 80% viennent du Maghreb, de familles du Maghreb. Il y a une très très grande cohésion entre elles. C'est une communauté française qui est très unie, très soudée et qui est intégré à des degrés divers, pas forcément à la première génération, mais à la deuxième et la troisième génération, qui est très intégrée en Israël, et qui sont, ils sont tous des éléments clés de la relation franco-israélienne. Parce qu'on peut dire qu'une relation, c'est au niveau politique ou de l'éducation, du social, de tout ça. Non, c'est les gens qui font vivre la relation. Et si la relation franco-israélienne est aussi forte, parfois passionnelle, parfois compliquée, mais elle est en tout cas très forte, c'est grâce à cette communauté qui vit ici.
Vous êtes encore un an ici sur place. Qu'est-ce que vous retiendrez de votre mandat ?
À la fois tout ce que nous avons à faire ensemble et aussi ce qui fait la différence entre nos deux pays. Mais il y a beaucoup à faire ensemble. L'histoire entre la France et Israël, c'est une histoire qui date d'avant Israël. En réalité, elle vient de l'histoire de la France avec les Juifs de France. Et elle se prolonge avec l'histoire d'Israël. Elle connaît des hauts et des bas, suivant des grands événements historiques que l'on connaît. Ce que je retiens, c'est qu'elle s'améliore depuis de nombreuses années et qu'il y a aujourd'hui une vraie, presque connivence culturelle entre les deux pays, et il y a cette idée que de toute façon, face aux difficultés du monde, à tout ce monde chaotique qui a des problèmes à la fois de valeur, de sécurité, de sens, eh bien Israël et la France travaillent ensemble et se rapprochent autour de ces questions clés. Quelles que soient nos divergences, nous finissons toujours
par nous retrouver sur l'essentiel, c'est-à-dire un certain nombre de, enfin, une conception de l'homme, de la justice, de la manière de vivre ensemble, etc. Et c'est ça, sans doute, que je retiendrai le plus.
Ici en Israël, un climat souvent délétère, c'est quelque chose de particulier. Vous le disiez, hein, des frontières physiques avec des pays souvent hostiles. Cela, c'est quelque chose que vous avez porté, dans votre fonction d'ambassadeur.
Ah oui, c'est que on ne peut pas, lorsque l'on vit ici, de toute façon, être à l'écart de cette question clé de l'inclusion d'Israël dans son environnement. Et c'est un pays jeune, mais qui, en même temps, devient la puissance régionale, aussi bien économique que militaire. Il y a donc une relation compliquée entre Israël et ses voisins, qu'évidemment, nous, en tant que France, nous devons travailler. Et cela étant, je constate là encore une amélioration dans les années récentes, notamment avec ce que l'on appelle les accords d'Abraham. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des perspectives tout à fait positives de la manière dont Israël peut vivre avec ses voisins.
C'était Éric Danon, ambassadeur de France en Israël.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.